Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Le théâtre Denis Pelletier nous invite à une relecture audacieuse et éclairée d'un grand classique de la littérature, Candide de Voltaire. Adaptée et mise en scène par Hugo Bélanger, cette fable philosophique promet d'être à la fois ludique, irrévérencieuse et profondément actuelle. Une œuvre qui nous invite à rire de l'absurdité du monde. Nous accueillons donc aujourd'hui pour en parler Hugo Bélanger. C'est l'homme derrière donc cette création. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, Voltaire est un pilier et son conte est connu. Pourquoi avoir choisi de vous attaquer à Candide maintenant? Et vous en faites donc, expliquez-nous un peu cette relecture que vous faites éclater de cette œuvre.
Ça fait longtemps que j'y pense. C'est même Pierre Rousseau, l'ancien directeur artistique du Théâtre Denis Pelletier, qui m'en avait parlé à l'époque. Après, Laurent de Pintal m'avait proposé de le monter au TNM, mais c'était une adaptation déjà écrite par Pierre-Yves Lemieux. Puis je voulais écrire ma propre adaptation. J'avais une idée en tête. Et c'est drôle, mais on dit souvent les classiques sont encore actuels et tout ça, mais celui-là, vraiment, vraiment beaucoup, parce que c'est un texte qui parle, qui critique comme qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience des horreurs du monde. Et on vit une époque avec Internet où on voit le réchauffement climatique, on voit l'arrivée de Trump, on voit plein de choses qui nous bouleversent, et on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça. Est-ce que c'est de fermer les yeux et comment on peut agir et tout ça? Et ce texte-là parle de ça, comment, quoi faire quand on est écrasé devant toutes les pires calamités qu'on voit autour de nous.
Donc, on parle d'une adaptation qui est qualifiée de libre et audacieuse. J'avoue, je ne l'ai pas vue, ça commence demain, puis moi, mon billet, c'est vendredi. Mais comment avez-vous réussi à trouver le juste équilibre entre le respect d'un texte philosophique et la fantaisie et la démesure que vous voulez y injecter?
Ben, il faut savoir que c'est un conte, conte philosophique, puis c'est une comédie, c'est drôle, c'est ironique. Voltaire a choisi l'humour pour se moquer des pires travers de l'humanité, d'en rire au lieu de juste s'effondrer en larmes. Donc, j'ai voulu transmettre cette espèce de critique comique, parce que sans arrêt l'histoire il y a des mises en abîme, des personnages racontent leur histoire, des personnages qui meurent, qui reviennent à la vie sans arrêt, donc il y a vraiment un côté très drôle dans l'histoire, donc j'ai voulu mettre ça sur scène en utilisant les codes du théâtre, donc en mettant clairement l'histoire racontée par un chœur, un groupe de battleurs qui racontent l'histoire. Donc, quand ils jouent, c'est jouer une reine, mais c'est un personnage qui joue la reine. C'est jamais la reine. Donc, ça permet de critiquer, un peu comme le fou du roi, qui permet de parodier puis de critiquer sans arrêt. Et le chœur de comédiens critique aussi le roman, l'histoire sans arrêt. Comme ça amène à des discussions et des réflexions. Comme il y a dans le conte sans arrêt, c'est des discussions entre les personnages qui remettent en question plein de choses. Donc, je voulais exprimer ça sur scène, utiliser les codes du théâtre pour faire parler le roman.
On a vraiment l'impression qu'il y a donc une espèce, vous jouez sur le décalage entre une espèce de comédie, de choses passées, présentes, sérieuses. Comment vous avez fait pour tout vous retrouver là-dedans puis faire une mise en scène? Parce que non seulement vous avez adapté le texte, vous avez fait la mise en scène, là.
Oui, c'est ça. Ben c'est une critique. On critique les puissants de ce monde. Fait que c'est vraiment l'idée, c'est que justement, exemple dans le roman. À l'époque, c'est drôle parce que les chapitres expliquent ce qui va se passer dans le roman. Donc, dans le chapitre. Donc, c'est un peu, ça va un peu le punch. Exemple, le chapitre, 22e, comment Candide tua telle personne, exemple. Puis là, le monde, sauf que là, on dit tous les chapitres, tout le cœur dit les chapitres, fait que les personnages réagissent un peu à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Je peux pas faire ça. Donc, ça questionne aussi un peu le libre arbitre. Est-ce que tout est écrit d'avance? Est-ce qu'on peut prendre des propres décisions? C'est une histoire quand même, c'est drôle un peu parce que c'est une histoire que les gens connaissent indirectement. Parce qu'il faut savoir, exemple, Forrest Gump, le film Forrest Gump, très bien connu, est un remake de Candide. Peu de gens savent ça, mais c'est un remake. C'est exactement la même histoire.
Vous me l'apprenez.
Oui, c'est exactement la même histoire. C'est un jeune homme naïf qui traverse des guerres, plein de choses terribles, et qui est amoureux d'une fille qui veut pas vraiment de lui, puis qui revient à la fin. C'est la même histoire. C'est la même structure. Donc, ça permet une critique dans Forrest Gump, où on parle de la guerre du Vietnam, on parle de plein de choses, de l'histoire des États-Unis, mais c'est la même chose. Donc, Candide va se promener à travers des guerres, l'Inquisition, il va aller en Amérique du Sud découvrir les cités d'or, il va retourner à Constantinople, il va partout dans le monde, donc c'est une aventure. Vraiment une aventure, donc c'est passionnant que ça s'arrête jamais. Il y a plein de lieux différents. Il y a 8 comédiens qui jouent 50 personnages, donc c'est quelque chose de très, très, très foisonnant.
Ah, ça va être fou. J'ai hâte de voir ça. Candide pose une question fondamentale. Hein? Comment rester optimiste face aux duretés du monde? Vraiment, là, je trouve que c'est vraiment d'actualité avec ce qu'on vit présentement. Comment votre adaptation, justement, fait ça là, dans le monde actuel? Là?
Mais c'est la fameuse question que se pose Voltaire. Voltaire a été très marqué à l'époque par un tremblement de terre qui a fait des milliers de morts, puis s'est dit, bon, comment ça se fait que la nature permet des choses comme ça? Si Dieu existe, comment ça se fait qu'il permet ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit des choses comme ça? Comment rester optimiste et croire dans la vie? Et justement, Candide a deux philosophes avec lui. Il y a Pangloss qui lui dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, tout est toujours bon. L'espèce d'optimisme un peu béat. Et tu as un autre personnage, Martin, qui est le pessimiste, le philosophe pessimiste qui est tout va mal et tout va mal. Donc, je pense que l'être humain, on doit naviguer un peu entre les deux. On a toujours l'impression qu'on vit à la pire époque de l'humanité. Si on demande aux gens, on va dire « Ah, c'est le pire moment de l'histoire ». Mais aller dire ça aux gens à l'an 1000 au Moyen-Âge, je suis pas mal sûr qu'ils disaient que c'était aussi le pire moment de l'histoire. Donc, on a souvent l'impression de vivre le pire. Et pourtant, on continue à avancer, continue à faire des enfants, continue à essayer de progresser parce qu'on a toujours un petit espoir au fond de nous que ça va aller mieux, que l'humain est capable du pire, peut inventer une bombe atomique, peut voter pour des gens, des fois des dictateurs. Mais aussi, les humains peuvent faire des choses magnifiques. Donc, c'est de se rappeler aussi de ça. Puis, Candide, l'histoire, c'est un optimiste on peut se moquer de lui au début, on dit « Ah, il est un peu idiot », mais à la fin, je pense que c'est lui qui a raison. Il faut rester optimiste malgré tout. Il faut garder cette parcelle d'espoir-là, cette étincelle d'espoir et d'optimisme pour avancer dans la vie, sinon ça n'a aucun sens. Puis comment pouvoir changer les choses? Comment, dit Candide, cultiver son jardin? Donc, comment dans son entourage, peut-être, si on s'occupe de notre petit coin de pays, notre entourage, nos amis, notre communauté, peut-être qu'on peut changer les choses à petite échelle, puis la petite échelle va devenir une grande échelle.
Ouais. Je me permets d'élargir un peu cette entrevue parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans les théâtres, notamment à Montréal. Puis surtout au théâtre Denis Petit, vous avez commencé la saison avec Rhinocéros, une relecture très d'actualité finalement. Et là, on est encore là, j'ai l'impression qu'il y a comme... puis on l'a vu aussi, on l'a vu dans d'autres théâtres, je peux dire. Qu'est-ce qui se passe?
Bien, je pense qu'on vit une période... Ça tombe, c'est un hasard par exemple, parce que les saisons sont décidées souvent des années d'avance. Mais j'avoue, avec tout ce qui arrive dans le monde présentement, c'est tellement bouleversant. Ça fait des périodes où c'est difficile de voir la lumière. Puis il y a un besoin, je pense, chez les artistes, de critiquer la société, de critiquer, de remettre en question, puis aussi parler d'espoir aussi, puis d'essayer d'être le miroir un peu. C'est un cliché de dire, on est le miroir de notre société, mais je pense que on n'a pas le choix de s'impliquer, de s'affirmer, de discuter, de réfléchir, parce que on se sent, comme par exemple tout ce qui se passe aux États-Unis présentement, on a l'impression que la démocratie recule, et des humoristes qui... C'est des gens, Jimmy Kimmel, qui s'est fait presque canceller, qui est revenu finalement, mais tu sais, ils ont-ils le droit de parler? Puis je pense que ça fait que les artistes ont encore plus... ramène encore plus le besoin de dire, il faut discuter sur la place publique. Et le bien du théâtre, c'est que c'est des gens qui se regroupent ensemble. De plus en plus, les gens sont tout seuls devant leurs écrans. Mais aller se regrouper en groupe dans une salle et parler, et discuter, réfléchir, rire aussi, je pense que ça fait profondément du bien.
On va parler des comédiens dans cette pièce. Comédien, comédienne, Gabriel Favreau, donc dans le rôle de Voltaire.
Oui.
Alors, pourquoi ce choix?
Ah, ouais, on a fait des auditions pour trouver Candide et c'est pas toujours évident. C'est drôle et Gabriel était le premier à passer à l'audition et tout de suite on a vu dans son regard, Gabriel a une, on pourrait dire une tendresse dans son regard, une douceur. Il dégage cette espèce de pureté-là que Candide a. Parce que Candide, c'est ça qui est un peu comme l'idiot de Dostoïevski. Faut pas justement jouer l'idiot. C'est pas un idiot. C'est un personnage qui est candide. Candide, ça veut dire quelqu'un qui est une espèce de pureté naïve, dans le sens qu'il n'y a pas de malice, qu'il n'y a pas de méchanceté et qui n'est pas idiot pour autre. Il n'est pas idiot. Il est juste pur. Il est juste sincère, il est juste comme ça, tu sais, c'est une espèce de personnage qui a pas de malice. Quand je parle de Forrest Gump, c'est ça. Forrest Gump, c'est une espèce de personnage qui traverse et qui, lui, a pas de méchanceté, il fait ses choses et tout ça. Et c'est pour jouer ça, c'est pas simple. Et Gabriel a vraiment cette capacité-là à travailler, à avoir ce regard-là. Et Candide évolue pendant le spectacle. Il perd sa naïveté. Au début, c'est un optimisme un peu vraiment naïf. Puis à la fin, il Il travaille, il reste optimiste, mais un optimiste réfléchi, un optimiste qui a pris conscience du monde qui l'entoure, comme un enfant. Un enfant, quand il sait rien, tout va bien, puis à un moment donné, oups, ça arrive à l'adolescence, on désillusionne un peu, mais de redécider de rester optimiste, ça demande un travail.
Tout à fait. Toute l'équipe, donc, vous avez 8 interprètes. Comment cette équipe-là a embrassé cette espèce de folie, qu'on pourrait dire, de la création?
C'est une équipe formidable. Il y a des comédiens de vraiment différents âges, différents milieux. C'est formidable parce que mon travail dans ma compagnie, c'est toujours un travail de troupe. Donc, où les comédiens s'investissent à fond physiquement, ils jouent plein de personnages, ils manipulent du décor, ils manipulent des marionnettes, ils font plein de choses. Donc, ils se reposent jamais une seconde. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et en même temps, je pense que on dirait c'est très stimulant dans des spectacles comme ça parce que justement, il y a personne qui s'ennuie en coulisses. Donc, tout le monde donne du sien et cette notion du « nous » est là vraiment dans le spectacle. Ça parle de ça, mais sur scène, dans la manière qu'ils travaillent, ils n'ont pas le choix d'être dans ça. Tout le monde se soutient. Il n'y a pas de vedette dans le spectacle, même si Candide est toujours sur scène. Tout le monde est toujours sur scène. Donc, ça demande un travail très rigoureux et j'ai vraiment une équipe incroyable.
J'aimerais rappeler quand même que vous présentez cette pièce dans la grande salle du Théâtre Denis Pelletier. C'est aussi une salle qui attire beaucoup. À chaque fois que j'y vais, je vois des jeunes, beaucoup de groupes d'école et tout ça qui viennent. Ça sera la même chose pour Candide?
Bien sûr, naturellement. Aussi, Candide est souvent un conte, un roman étudié à l'école, secondaire, cégep. Ce qui est intéressant avec la pièce, c'est que des fois, les jeunes ont... En plus de difficulté à attraper le deuxième degré dans le livre. Ils voient le dramatique et ils ne voient pas que c'est comique. Donc, la pièce va vraiment leur montrer ça, le côté ridicule, le côté critique. Et ça va pouvoir, j'espère, mener à des discussions après le spectacle sur ce qu'ils ont vu, mais aussi leur réflexion par rapport à tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant de montrer ça à toutes les générations, mais aux jeunes en particulier. Je pense que c'est eux qui sont l'avenir, c'est étudié pour dire ça, mais c'est eux qui vont être pris avec le réchauffement climatique puis tout ce qui arrive et tout ça, donc c'est leur question.
Et tous les dictateurs qu'on leur a mis ça en place, effectivement.
Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça?
Ça va être une bonne question. Hugo Bélanger, on va devoir s'arrêter ici. Je voudrais donc vous remercier, l'adaptateur, metteur en scène de la pièce Candide, qui est présentée du 11 novembre au 6 décembre au Théâtre Denis Pelletier. Merci beaucoup.
Merci à vous.